Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro-Rebelle Hebdo. Toutes nos émissions sont diffusées sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel. Vous pouvez les écouter, les réécouter et les télécharger. Par ailleurs, Micro-Rebelle Hebdo est sur les ondes de nos amis de Radio PFM 99.9 le mardi à 15h, le samedi à 7h30 et le dimanche soir à minuit. Nous vous proposons aujourd'hui un programme varié et je laisse sans tarder la parole à Jonathan et à son équipe pour l'agenda culturel et social.
Bonjour tout le monde, ici Jonathan de Micro-Rebelle. Alors aujourd'hui nous sommes accompagnés par Sarah, Michel et Lucien. Nous allons présenter l'agenda. Nous commençons cet agenda par de la musique avec le Quatuor Tana qui va se produire à Arras le mardi 24 janvier à 20h30 au Théâtre d'Arras. Donc le Quatuor Tana, c'est de la musique classique, ils vont nous interpréter le Mozart basque Arriaga avec notamment le Quatuor en ré mineur. Et dans le même concert, on entendra également Arcane d'Hector Parra et d'autres pièces ibériques ou d'Amérique latine. Le Quatuor Tana, ce sont quatre musiciens qui vont donc nous livrer une prestation tout en délicatesse. Je vous rappelle, c'est à Arras, le 24 janvier à 20h30. Les places sont de 9 à 22 euros et vous pouvez réserver au 09 71 00 56 78 ou sur le site du Tandem, tandem-arrasdouet.eu.
Mercredi 25 janvier au LAG, c'est une journée de formation, sociologie clinique, recherche action, organisée et animée par nos amis de l'Étincelle, avec Pierre Roche et William Tournier. Alors c'est une formation pour une éducation populaire politique, c'est gratuit, ouvert à tout le monde. Il faut juste s'inscrire par mail à w.tournier.live.fr. C'est de 9h à 17h. Au lieu autogéré de Liévin, 23 avenue Jean Jaurès. Et ben on vous attend.
Le mercredi 25 janvier aura lieu une pièce de théâtre à Noyelles-Godault, nommée Fantomette, qui sera faite par la compagnie Un étrange été. Là où Fantomette passe, le crime trépasse. Voilà une joyeuse adaptation de l'œuvre de Georges Cholet. Qui est donc cette justicière masquée ? Personne ne connaît sa véritable identité. On ne sait d'elle qu'une chose, elle agit toujours seule la nuit. Suspense garanti et bonne humeur au rendez-vous. Donc vous avez rendez-vous à 16h30 au Centre culturel Matisse 10 rue Verdun à Noyelles-Godault. L'entrée est gratuite et pour réserver vos places, vous pouvez appeler le 03 21 13 83 83, du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 20h.
Nous passons maintenant au vendredi 27 janvier à Hénin-Beaumont à 20h. C'est de la musique rock des années 70 avec Deborah Bonham et Gillian Glover. Alors attention, c'est un plateau d'une très haute qualité, puisque Deborah Bonham, c'est la sœur du batteur de Led Zeppelin, et Gillian Glover, c'est la fille du bassiste de Deep Purple. Oui, rien que ça. Donc, on a donc une voix d'ange, hein, celle de Gillian Glover, qui se marie avec l'univers folk empreint de blues, et un son rock crescendo avec Deborah Bonham. Je vous donne les informations pratiques. Donc c'est le vendredi 27 janvier à Hénin-Beaumont à 20h, à l'Escapade, donc 263 rue de l'Abbaye à Hénin-Beaumont. Les places sont entre 8 et 12 euros. Et vous pouvez, si vous venez en groupe, avoir un pass 6 places pour 36 euros. Donc vous pouvez réserver au 03 21 20 06 48 ou sur accueil@escapadetheatre.fr.
Alors toujours le vendredi 27 janvier, mais cette fois-ci c'est à Grenay, c'est du théâtre musical avec une pièce qui s'appelle Going Home. C'est une histoire qui commence à Hambourg, dans un parc et sous la neige. Là, il y a un homme, noir, égaré, avec 5000 euros à ses pieds. Le braquage a foiré, la police est venue l'arrêter. Tout le monde le regarde, il se demande ce qu'il fait là. En quelques mots, le décor est planté. Donc c'est Going Home à Grenay, vendredi 27 janvier à 20h30. Alors c'est, les places vont de 3 à 6 euros et vous pouvez réserver à culture@grenay.fr. Donc, et ça se passe à l'espace Renny Couteur, boulevard des Flandres, le vendredi 27 janvier, donc Going Home à Grenay.
Alors un autre concert en préparation avec Hippocampe Fou, ancien membre du groupe La Secte Phonétique, qui va vous faire voyager à travers des rites endiablés. Amoureux des rimes et de la poésie, venez découvrir son monde imaginaire au Pharos à Arras, le vendredi 27 janvier à 20h30. Alors quelques infos pratiques. L'entrée est à 7 euros tarif normal et 3,50 euros pour les étudiants. Il est possible d'acheter vos places avant sur le site du casino d'Arras. Et pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 03 21 16 89 00.
Le lendemain, le samedi 28 janvier, nous avons une rencontre avec des auteurs de livres pour enfants. Ça se passe à Salomines, à la MAC, la Maison de l'Art et de la Communication, hein, juste en face de la mairie de Salomines. Donc c'est de 10h à 16h et c'est l'occasion pour les enfants et les parents de rencontrer ces auteurs, de discuter de livres pour enfants, avec notamment la librairie Au Pied de la Lettre qui est partenaire de la médiathèque. Donc vous pouvez vous inscrire ou vous renseigner directement auprès de la MAC, hein, la Maison de l'Art et de la Communication, à l'adresse internet mac@ville-salomine.fr ou par téléphone au 03 21 67 00 67.
Toujours le samedi 28 janvier, mais cette fois-ci à 19h et au théâtre du Louvre-Lens. C'est une pièce qui s'appelle Macbeth, les nuits tragiques, mise en scène par Danquan et un texte de Lefebvre. Alors Macbeth, en fait, c'est une libre adaptation de la tragédie de Shakespeare Macbeth, qui se passe dans le monde des insectes. Macbeth et Lady M règnent en tyran sur un peuple d'insectes grouillants. Secret d'État et perfidie ont pour seul écho le bruissement des carapaces, le craquement des mandibules. Donc c'est Macbeth, les Nuits Tragiques, au théâtre du Louvre-Lens, le samedi 28 janvier à 19h. Les tarifs pour les moins de 18 ans, c'est 5 euros. Sinon, c'est tarif réduit 8 euros, tarif plein 10 euros. C'est à partir de 14 ans. Et vous pouvez réserver au 03 21 18 62 62. Voilà, du théâtre, le samedi soir, le samedi 28 janvier, Macbeth, les Nuits Tragiques.
Alors vous êtes attendu pour le concert de Peter Harper, le frère de Ben Harper, le samedi 28 janvier à Béthune. Après le succès de sa première tournée en France au printemps dernier, il décide de revenir en Europe avec un nouveau disque et de continuer à charmer son auditoire avec sa voix chaude, sa guitare ténor acoustique et son ukulélé. Quelques infos pratiques, ce concert prendra place au théâtre Le Poche rue Fernand Barre à Béthune. Les tarifs vont de 8 à 6 euros et vous pouvez réserver vos places au 03 21 64 37 37.
Bien, nous terminons cet agenda par une annonce qui concerne l'économie sociale et solidaire, et plus précisément la finance solidaire. Donc, vous savez qu'en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la région Hauts-de-France, il y a un pôle de la finance solidaire qui est constitué de quatre organisations. La NEF, qui est une banque solidaire, les clubs Cigales, les clubs de proximité, la Caisse solidaire, auprès de laquelle de nombreuses organisations de l'ESS peuvent emprunter, et pour finir, Autonomie et Solidarité, qui est un organisme qui peut investir au sein du capital des entreprises, des associations de l'économie sociale et solidaire. Donc ces quatre organisations, ce pôle de la finance solidaire, vous propose une soirée d'information le lundi 30 janvier de 18h30 à 20h30 à la Maison des Sociétés à Arras, 16 rue Aristide Briand. Donc c'est une bonne occasion pour découvrir les possibilités d'utiliser votre épargne à vous particulier, d'utiliser votre épargne pour faire vivre la solidarité, l'écologie, la démocratie, d'une manière générale, tout ce qui fonde les valeurs de l'économie sociale et solidaire et de la finance solidaire. Donc n'hésitez pas à vous rendre à cette rencontre le 30 janvier de 18h30 à 20h30 à la Maison des Sociétés à Arras.
S'intitule Air Wave par Olivo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine et un bon week-end. Au revoir et à la semaine prochaine.
Merci Jonathan. Vous êtes toujours sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je vais laisser le micro à Michel pour une chronique tout simplement intitulée Le marathon des jeux vidéo. Mais auparavant, une petite pause musicale. C'est de la musique libre et ce sont les Bernardos qui nous chantent Le malheur de Sophie.
Allô Sophie, enfin ton répondeur. dit, voilà, écoute, ça fait quelques jours que je suis amoureux de toi. Et si tu prouves quelque chose pour moi, écoute, rendez-vous au café de la gare, 14h. Ciao.
C'est encore Gaëtan, ce petit obsédé, qui travaille à Auchan, au rayon surgelé. Il drague tout ce qui passe, raconte des trucs douteux. C'est un gros dégueulasse, il est vraiment foireux. Il vit chez sa mémé, il s'habille chez Dama, avec son petit ciré. Il est vraiment ringard, il joue les Don Juan. Dans sa super Volvo, il est vraiment navrant. Il n'écoute qu'à l'amour. Jean n'est marre de ce tétard. Rien n'a faire. Il m'exaspère.
Sophie, à la foire au fromage, elle est vraiment jolie, je suis sur un nuage. J'ai eu son numéro par son meilleur copain, c'est un grand rigolo, je crois qu'il m'aime bien. Paraît que je lui plais et qu'elle me trouve beau. Quand je mets mon ciré, je ressemble à Clo-Clo. Elles sont toutes folles de moi, je suis irrésistible. Elles sont toutes en émoi, je suis vraiment terrible. Je l'aurai. Car je lui plais, j'en suis sûr, elle va craquer.
Allô Sophie, dis, si tu as reçu mon message après 14h, ah ben écoute, il est toujours pas trop tard, donc rendez-vous 19h au drugstore, ciao.
Je suis vraiment coincée pour une fois que je sors à une super soirée au café le drugstore. C'est vraiment mal barré, que vont dire les copains? Ce type a tout gâché, y'a plus de rime en un. J'ai envie de le tuer à grands coups de chevrotine ou bien de l'éventrer comme ça dans sa cuisine. Mais c'est quand même bizarre pour une fois qu'on m'invite. Où c'est un coup Bernard et de ses acolytes?
Il est bientôt 2h, mais elle ne viendra plus. Je vais lui faire mal au cœur, lui dire que j'aime plus. Ses copains sont partis, le café va fermer. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher.
Allô, Sophie, écoute, c'est Gaëtan ici. Écoute, il est 2h du matin, je suis fatigué, j'avais faim. J'ai mangé des pralines, j'avais toujours faim. Je viens de finir les fleurs, écoute... Ça fait dur entre nous, écoute, c'est fini, je sais que ça va être dur pour toi, mais courage, courage, ne pleure pas. Je resterai un ami pour toi si tu veux, c'est fini entre nous. Ciao.
Alors dans l'actualité cette semaine, je voudrais revenir avec vous sur un événement qui s'est déroulé du 8 au 15 janvier. C'est un marathon de jeux vidéo, et plus précisément un marathon de speedrun. Alors le speedrun, qu'est-ce que c'est ? C'est une pratique dans le monde du jeu vidéo qui consiste à terminer un jeu le plus rapidement possible avec les conditions que propose le jeu. Donc il n'y a pas de triche, on n'ajoute pas quelque chose au jeu vidéo, on ne va pas utiliser d'artefacts en plus, non, simplement avec la manette ou le clavier et la souris et les règles qui sont inhérentes au jeu, on essaye d'aller le plus rapidement possible à la fin. Vous avez des sites internet qui parlent de ça, par exemple Speed Demo Archive, qui est... le plus vieux, je crois, des sites qui référencient des records, parce que dans cette pratique, il y a cette notion de vitesse, donc de temps, donc on se chronomètre, et pour tel ou tel jeu, il y a des records qui sont faits, des records du monde, etc. Et le site Speed Demo Archive est le plus vieux site à référencer ces records sur tout type de jeu, toute plateforme, que ce soit des consoles de jeu ou des ordinateurs. Et ce site, Speed Demo Archive, a organisé en 2010 un marathon caritatif pour l'association CARE. Ils ont réuni 10 000 $. Et ils ont créé en 2011 un autre marathon qui s'appelle maintenant la Awesome Games Done Quick. Donc Awesome, ça veut dire génial, donc c'est les jeux géniaux finis rapidement. Donc depuis 2011, la GDQ, la Awesome Games Done Quick, est organisée début janvier. Donc cette année, en 2017, c'était du 8 au 15 janvier. Ça dure une semaine, sans interruption. Donc ça fait à peu près 150 heures de jeux vidéo, de speedrun. Alors c'est toujours caritatif. Depuis maintenant 4 ans, l'argent récolté va à la Prevent Cancer Foundation. C'est une fondation américaine qui fait de la prévention, de la lutte, de la recherche, de l'éducation par rapport au cancer. Et cette année, au terme de cette semaine de la GDQ, a été récolté 2 221 880 dollars. C'est la première fois dans l'histoire de ce marathon qu'une telle somme est récoltée. Il y avait déjà eu un précédent. En 2014, c'était l'année où on avait dépassé le million de dollars collectés. Et voilà, en fait, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, puisqu'en fait, c'est intéressant de voir que des joueurs... Alors, parce que je vais vous parler vite fait de l'organisation, comment ça se déroule. Les joueurs qui participent, donc ceux qui vont faire leur performance, se réunissent pendant une semaine aux États-Unis. Alors, cette année, et comme depuis 2014, les joueurs qui participent à cet événement se réunissent dans la ville de Herndon, en Virginie. Et l'association Games Done Quick, qui organise cet événement, organise le marathon dans l'hôtel Hilton. Alors ça, c'est pour la partie joueurs et spectateurs. Les spectateurs et spectatrices, nous, on le regarde depuis Internet à travers le site Twitch, qui est un site de flux vidéo en direct. Donc les joueurs font leur performance et c'est retransmis en direct sur Internet. Et nous, en tant que spectateurs, on regarde ce flux. Alors, il y a un programme qui est établi 2-3 mois à l'avance pour savoir tel jour, à telle heure, quel jeu sera joué, etc. Et on peut faire des dons en direct parce que du coup, il y a un tracker de dons qui est disponible sur Internet, sur le site de la GDQ. On peut cliquer, faire un don et c'est comme ça qu'est récolté en fait, l'argent qui ira à la Prevent Cancer Foundation. Et il existe aussi en France... depuis 2013, l'initiative d'un joueur qui s'appelle Mr. MV, un restream, c'est-à-dire qu'on va récupérer le flux américain pour le diffuser en fait en français. Donc il y a des commentateurs français qui en gros commentent en direct ce qui se passe pour la communauté française en fait. Et ce restream a créé des petites émulations. Il y a maintenant un restream espagnol, allemand. Et russe. Voilà, et donc cette année, si je vous parle de ça, c'est parce que, bon, déjà, la somme récoltée est importante, 2 221 880 dollars, c'est exceptionnel, c'est caritatif, et surtout, ça permet de montrer au grand public que le monde du jeu vidéo, c'est pas simplement des aspects que négatifs, comme on peut le voir, le lire ou l'entendre lorsque les médias traitent le milieu du jeu vidéo. Même si le regard change d'année en année, il évolue. Mais c'est toujours bien de montrer les aspects positifs de cette communauté, puisque ces joueurs-là ne gagnent rien, les organisateurs ne gagnent rien. Tout est reversé à une association qui lutte contre le cancer. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site gdq.com, qui est le site de l'association qui organise ces marathons. Il y a une page Wikipédia pour la GDQ. Allez-y, allez la consulter. Vous allez avoir surtout des informations sur les dons qui ont été récoltés chaque année. Et si vous êtes intéressé au speedrun, plus simple, c'est Speed Demo Archive, très référencé, mais il est en anglais par contre. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ça, à découvrir un peu ce milieu, cette pratique vidéoludique qui est très intéressante et qui met en avant le jeu vidéo sous ses plus beaux atouts.
Nous allons maintenant continuer avec Michel sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9 pour deux reportages. Le premier concerne les grossesses adolescentes.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau reportage de Micro Rebelle Hebdo. Alors cette semaine, on aborde la question des grossesses adolescentes avec une interview réalisée en novembre dernier lors d'un lundi du planning à propos de cette thématique. Une interview de Loïse qui fait partie du planning familial 62. Donc je vous laisse avec cette interview, je vous dis à la semaine prochaine, bonne écoute. ce soir, donc Micro Rebelle est un atelier du planning familial 62 sur les grossesses adolescentes. Et Loïse qui va gérer l'atelier, l'animer, oui, gérer, l'animer, a accepté de répondre à quelques questions avant le début de l'atelier. Alors déjà, donc bonsoir Loïse. Et rapidement pour les auditeurs, les auditrices, qu'est-ce qu'on entend par grossesse adolescente ?
Le plus souvent, ce qu'on entend par grossesse adolescente, c'est des grossesses qui arriveraient avant 18 ans, à peu près avant 18-20 ans. Alors les définitions sont pareilles, pas toujours d'accord, donc qui surviendraient au moment de l'adolescence et qui ne sont pas à confondre avec les maternités adolescentes, c'est-à-dire que si on prend 4 grossesses adolescentes, il n'y en aura qu'une seule qui sera poursuivie à terme. Il n'y a qu'un quart des grossesses qui vont être poursuivies en maternité adolescente. Et donc, il n'y a pas à confondre ces deux termes-là. Donc, les grossesses adolescentes, ça serait des filles qui sont enceintes avant l'âge de 19-20 ans.
Il y a une fourchette assez large parce que dans la tête des gens et dans les articles que j'ai pu lire en m'enseignant un peu là-dessus, on définit les grossesses adolescentes entre 13 et 19 ans. Mais déjà, des grossesses à 12-13 ans, et une grossesse à 17-19 ans sont deux cas de figure différents. Pourquoi avoir une fourchette dans l'âge si large et les regrouper sous le terme adolescente ?
Bah, je pense parce que l'adolescence, elle commence en tout cas chez les filles à... Enfin, alors avec tout ce qui est puberté, hein, c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, on met l'adolescence vers ces âges-là. Et donc, c'est toute cette période qu'on dit de changement entre l'âge de l'enfant à l'adulte. Et certes, ça couvre deux réalités totalement différentes. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que des grossesses à 12-13 ans en France, il y en a très, 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 très peu. Et en fait, on imagine beaucoup de choses, on a beaucoup de représentations autour de ces grossesses, alors qu'elles vont survenir la plupart du temps, plus entre 16 et 20 ans, en fait, ou 16 et 19 ans, quoi.
Alors, quand on pense, enfin, c'est un peu mon cas, aux grossesses adolescentes, on peut penser aussi ce qu'on appelle aux grossesses tardives qui arrivent après entre guillemets l'âge pour avoir des enfants, etc. Est-ce qu'il y a des risques médicaux pour la mère et l'enfant à avoir des grossesses si jeunes ?
Bah, la question sur les risques, alors en tout cas selon les lectures que j'ai pu avoir, les risques, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que quand on prend des jeunes filles qui vont avoir 15, 16, 17 ans, voilà, les risques sont pas si forts que ça. C'est surtout la problématique du suivi. C'est-à-dire que dans certains hôpitaux, on voit que presque 20%, donc 20% des grosses, enfin des maternités adolescentes, donc des filles qui vont à terme, 20% de ces filles n'ont eu aucun suivi pendant la grossesse, ce qui est quand même peut provoquer des complications, être très dangereux. Et c'est ça qui est plus problématique, c'est le manque de préparation des personnels médicaux qui vont accueillir ces grossesses de manière très réfractaire. C'est aussi tout un personnel scolaire, d'assistantes sociales qui potentiellement vont nous renvoyer les jeunes filles pour qu'on les convainc d'avorter, en fait. Et donc une jeune fille qui sent que on va pas l'accompagner dans son choix et qu'on met pas tout en place pour qu'elle puisse poursuivre sa scolarité, pour qu'elle puisse avoir un accompagnement de qualité, ben elle va beaucoup avoir beaucoup plus de mal, en tout cas à retourner à l'hôpital, à aller à la PMI et à se faire suivre de manière, d'une manière en tout cas qui pourrait préserver sa santé.
Le planning familial, comment il accompagne en fait ces grossesses adolescentes et ces adolescentes?
Alors sur de l'accompagnement, on n'est pas forcément sur nous des accompagnements de long terme, ça fait pas forcément partie de nos missions, mais en tout cas c'est de l'accueil sans jugement, c'est-à-dire d'accepter et de discuter, si cette jeune fille, elle veut poursuivre sa grossesse, comment elle peut faire ? Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place, l'orienter pour qu'elle ait le meilleur accompagnement pour le coup, est-ce qu'elle veut rester chez ses parents ou non, la prévenir aussi des obstacles sur son chemin, c'est-à-dire de dire, les personnels médicaux, ce ne sera pas forcément un accueil qui sera très bon, mais sachez que vous pouvez revenir nous voir. Nous, on peut aussi rediscuter, discuter avec ces personnels médicaux et faire du rappel à la loi, parce qu'en fait, à un moment, il faut aussi revenir à ça. Et puis vraiment d'être dans le non-jugement et l'écoute, et je pense que c'est ça le plus important. Et ce que j'ai oublié tout à l'heure quand on parlait du fait des risques par rapport à ces grossesses, c'est aussi toute la question en fait que ces grossesses qui sont très peu nombreuses en France, en fait, on a un pourcentage, je crois que ça représente 1% des grossesses, quelque chose comme ça, quoi. On est vraiment à quelque chose d'infime, ça crée un énorme trouble, alors que par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, on a des taux qui sont vraiment beaucoup plus forts, mais c'est que ces grossesses, elles perturbent nos normes, en fait. Et comme tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir des grossesses tardives, il y a toujours ce jugement de vous sortez de la norme, la grossesse, normalement la maternité, c'est quand t'as une maison, c'est quand t'as un travail, c'est quand t'as tout ça, et là vous avez pas tout ça, vous, donc c'est pas possible, ou bien ah vous êtes trop vieille, ah vous allez pas pouvoir accompagner, etc. Et on est encore dans ce jugement qui est très lié à la norme. Et l'autre chose, c'est que ce qu'on voit à travers toute cette question des grossesses adolescentes, c'est aussi quelque chose qui renvoie aux structures de domination de nos sociétés, c'est-à-dire de l'agisme et du sexisme, parce que c'est encore aux femmes qu'on fait payer ce truc de « tu sors de la norme, tu sors du chemin, donc on va te remettre dans le droit chemin », etc. Et donc je pense que ce que les grossesses adolescentes, en tout cas, c'est intéressant pour ça, pour nous rappeler aussi tout ça et nous questionner sur qu'est-ce qu'on fait pour se vivre ensemble et comment on re-questionne nos normes.
Une dernière question, puis après on va te laisser animer l'atelier, Loïse. Qu'est-ce qui peut pousser des adolescentes à faire des enfants à un âge où, tu le rappelles bien, où dans la norme, on n'en fait pas ?
Il y a plein de raisons. Il y a un désir réel d'enfant. Qui peut permettre l'émancipation, qui peut permettre de sortir de situations de violence, qui peut aussi remplacer un manque d'amour qu'on n'a pas eu, qui peut être juste de la reproduction sociale parce que notre mère nous a eu à 15-16 ans, donc nous, on aura notre premier enfant à 15-16 ans. Ça peut être... Donc ouais, ce réel désir d'enfant, de construction d'un couple avec un partenaire qui peut être un peu plus âgé, qui peut déjà avoir une situation, de rendre ça plus réel, plus concret. Aussi parce que parfois, on n'a pas forcément de modèle ou quelque chose qui nous pousse à vouloir faire carrière. Et donc, on va se resserrer plus autour de la famille et donc faire des enfants. Alors après, je pense que ça questionne aussi beaucoup, en tout cas pour le Pas-de-Calais, notre territoire, sur comment les femmes se voient, se vivent à travers des possibilités scolaires qui sont quand même, somme toute, très limitées pour les filles et très stéréotypées. Et puis, voilà, il y a aussi des choses beaucoup plus dures de mariage forcé, d'inceste, de violence. Voilà, je pense qu'il y a énormément de choses possibles, en fait. Et je pense que tout ça, ça reste aussi de l'individuel et du parcours. Et puis après, c'est peut-être des filles qui se sentent prêtes à avoir un enfant maintenant. Et puis qui vont quand même, parce qu'il y aura un accompagnement de qualité. Et des structures scolaires qui s'adaptent à tout ça, parce que ça existe, des structures scolaires qui s'adaptent à ça, et c'est extrêmement rare, et par exemple sur le territoire j'en connais peu, qui pourra poursuivre ses études et faire carrière même si elle a un enfant à 15-16 ans.
Ben, merci beaucoup Loïse pour cette petite présentation de l'atelier de ce soir, et bon courage pour l'animation. Eh bien, l'interview est maintenant terminée. J'espère que vous en savez un peu plus sur cette question, ma foi, méconnue sur les grossesses adolescentes. Si vous voulez plus d'informations sur le site du planning familial, il y a pas mal de dossiers, d'articles qui traitent de cette question. La musique, alors, on a les transitions que vous avez écoutées lors de cette interview viennent du morceau Broken Castle du groupe Saki. Qui a sorti un EP qui s'appelle Broken Castle sur un net label qui s'appelle Jumpsuit Records. Et on va se quitter avec le titre Aspiration Prayer. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain reportage de Micro Rebelle Hebdo. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur notre site internet microrebelle.fr où vous avez toutes nos émissions, qu'elles soient littéraires, de l'actualité et des reportages. Eh bien, à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.
Nous poursuivons nos reportages sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9 avec un reportage en deux parties consacré à l'écrivain Jean Genet au travers d'un entretien avec Patrick Schindler qui vient de lui consacrer un livre. Je vous retrouve tout à l'heure.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau reportage de Micro Rebelle Hebdo. Alors cette semaine, nous allons parler littérature, et la semaine suivante également, car je vous propose l'interview d'un auteur, Patrick Schindler, qui est venu à Lille le 15 décembre dernier, au Centre culturel Libertaire, pour présenter un ouvrage sur Jean Genet, Jean Genet, Traces d'ombre et de lumière, édité aux éditions Libertaire. Alors à cette occasion, je l'ai rencontré et nous avons discuté dans un café, le bel ouvrage, pendant une grosse demi-heure, à parler littérature, à parler de Jean Genet, à parler de sa rencontre avec cet auteur et pourquoi il a eu envie d'écrire un livre sur lui. Donc ne soyez pas surpris de l'ambiance très café qui règne dans ce reportage, puisque l'interview a été réalisée dans ce café. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie, et je vous laisse avec la première partie. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonsoir Patrick, tu es venu ce soir sur Lille et au Centre culturel Libertaire pour parler de ton livre sur Jean Genet. Mais avant ça, avant qu'on aborde Jean Genet, pendant ton intervention, tu as parlé un peu du personnage et moi j'ai envie de te poser une question. Tu viens de Paris, tu es à Lille, on a changé de lieu là pour l'interview, on est dans un café, on n'est plus au Centre culturel Libertaire. Tu es avec ta valise, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être un peu comme Jean Genet qui n'avait qu'une valise et qui se déplaçait d'hôtel en hôtel?
C'est une très belle introduction. Non, j'ai pas l'impression d'être dans la peau de Jean Genet parce que, hélas, j'ai un autre vécu, mais pas le sien. En tout cas, c'est vrai que la symbolique de la valise, oui, effectivement. En fait, ce serait plutôt un fantasme de ne pas être attaché et d'être libre comme lui, sans doute. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, hein, mais sans doute était beaucoup plus libre que je ne le suis, en tout cas, au niveau des attaches, des lieux. Et d'un lieu dans lequel on vit, c'est vrai que Jean Genet vivait dans les chambres d'hôtel avec une valise. Mais la valise, j'aime bien. La valise, c'est quand même c'est le voyage, c'est se libérer un petit peu des attaches. Oui, j'aime bien la valise.
Ton livre s'intitule Jean Genet, Traces d'ombre et de lumière. Moi, quand il y a des titres comme ça, un peu en deux parties, avec une liaison, j'aime bien poser cette question. Dans la vie ou dans l'œuvre de Jean Genet, où est l'ombre et où est la lumière?
Encore une très bonne question. Le titre, déjà, on l'a choisi, on en a beaucoup parlé. À la base, je ne voulais pas l'appeler comme ça, le bouquin. On en a beaucoup parlé avec mon éditeur, donc Jean-Marc Reynaud des Éditions Libertaires. Autant j'avais une autre idée, je te dirais pas, parce que j'avais plusieurs idées. C'est celle-là qui était retenue, on l'a travaillée en... Moi j'aime beaucoup le collectif, j'aime pas trop l'individuel. En tout cas, au niveau du titre, j'insistais quand même parce que bon, comme je l'ai dit précédemment, j'avais plusieurs autres idées. Mais je voulais que ça résume bien Jean Genet, donc je sais pas, je pense que toi déjà, qu'est-ce que tu vois dans ce titre, Traces d'ombre et de lumière? Je te dirai après pourquoi on l'a choisi.
Alors, tu me retournes la question, mais c'est très bien parce que moi Jean Genet, j'ai découvert ce soir qu'en fait je n'avais rien lu de lui. Et j'ai envie de dire, à la lumière de ce que tu as dit ce soir, l'ombre, c'est un peu, par rapport à sa vie et par rapport à son œuvre, c'est toutes les ambiguïtés du personnage. Comme ça, hein, je le prends comme ça. Et la lumière, j'irai la chercher vers ses engagements à la fin de sa vie. C'est difficile pour moi de répondre à cette question puisque j'ai pas lu ses œuvres. J'en ai eu connaissance que ce soir avec ce que tu nous as présenté. Donc ouais, pour moi, ce serait ça. C'est l'ombre, c'est un peu tous les fantasmes, toutes les ambiguïtés que l'auteur a créé, enfin, ou que les gens se sont imaginés sur lui. Donc l'ombre, ce serait ça. Et puis la lumière, en fait, c'est au fil de son parcours, ça, c'est son engagement.
Je crois que tu as déjà pas mal répondu à la question. Donc pour ma part, les traces d'ombre, c'est la prison. Enfin, c'est comme ça que je l'ai disons que nous avons convenu du titre. Après, c'est très personnel. La lumière, pour moi, c'est l'écriture, c'est la libération de la prison par l'écriture, ce qui est totalement, je ne sais pas si on dit genésien ou genésien. En tout cas, c'est, en résumé, c'est un petit peu ce que tu as dit. C'est très difficile de choisir un titre pour un livre, mais on ne peut jamais résumer. C'est un personnage tellement ambigu. Tu as pu t'en apercevoir ce soir, là, quand j'en ai parlé au Centre culturel libertin. C'est un personnage tellement ambigu que c'est très dur à résumer. Bon, ce titre, c'est jamais qu'un titre hein, sur un livre. Les traces d'ombre, je pense que c'est ça. C'est sans vouloir trop appuyer sur la vie de Jean Genet, c'est quand même l'ombre. Il y a eu beaucoup d'ombre dans sa vie. Il y a eu aussi beaucoup de lumière. Et c'est pour ça que le titre m'a plu. L'ombre, c'est bien sûr l'orphelinat. Il faut savoir que Jean Genet est un enfant orphelin de l'assistance publique. Ça, c'est l'ombre. Après, il a beaucoup connu les geôles, la prison. C'est encore l'ombre. Il a connu une vie d'errance. C'est toujours l'ombre. En tant que mendiant, voleur, prostitué. Et à son époque, c'était difficile de s'assumer en tant qu'homosexuel. Ça, c'est l'ombre. Et après, dans tout ce que je viens de dire, c'est aussi la lumière, une façon de... J'aime pas, je pense pas qu'il aurait apprécié le terme de transcender, mais pour moi, c'est de transcender cette ombre vers de la lumière. Et la lumière, juste pour répondre à ta question, pour moi, dans ce titre, la lumière, c'est l'amour des mots, l'amour de la poésie, l'amour des bonnes causes, politiques, bien sûr, tout à fait. Et j'ai essayé de décortiquer ce soir, je ne l'ai pas très bien fait, parce que bon, c'est compliqué de parler de quelqu'un comme Jean Genet avec toutes, effectivement, ses contradictions, ses revirements, et ses transpositions, son œuvre très ambiguë. Et donc, voilà, pour résumer, pour moi, Jean Genet, c'est autant l'ombre que la lumière. Mais la lumière, donc, pour répondre à ta question, pour moi, c'est l'amour des mots, le bien écrire, autant dans des domaines que tu viens d'évoquer, autant pour l'œuvre romanesque que théâtrale, que poétique, voire amoureuse. Voilà, pour moi c'est tout ça Jean Genet, c'est les deux, c'est l'ombre et la lumière.
Alors vous êtes toujours sur Micro Rebelle Hebdo, vous écoutez Au Printemps du groupe Neat Beats sur l'album Alternate Soundtrack to Un Chien Andalou, et le reportage va reprendre dans quelques instants. Comme chaque personne qui écrit sur un auteur prend un bout de sa vie comme ça pour faire un bout de chemin avec quelqu'un, on va parler de rencontre. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Jean Genet ?
Je vais me répéter, j'en ai parlé tout à l'heure au CCL. Je l'ai rencontré assez jeune, à l'âge de 15-16 ans, j'étais au lycée, dans un lycée parisien. Et en fait, on avait monté une pièce célèbre de Jean Genet qui s'appelle Les Bonnes, qui aujourd'hui est rentré, il faut bien le dire, dans le patrimoine français. Il aurait détesté ça, mais eh oui, il en fait partie. Il fait partie aujourd'hui des auteurs de la Comédie française. Il fait partie du patrimoine de la Comédie française, pour les bonnes, entre autres, et pour le Balcon, je crois, ou les Paravents. Je me trompe certainement, mais donc par contre était voilà assez avec le recul dans le temps, enfin un hasard. Nous avons monté ça, j'avais 16 ans à l'époque, je l'ai raconté tout à l'heure, mais ce qui était assez intéressant, c'est que on était dans un lycée de garçons. Les bonnes, c'est une pièce à trois personnages, les deux bonnes et madame. Et Jean Genet, à cette époque-là, avait déjà, non pas exigé, mais conseillé aux personnes qui montaient les bonnes, que cette pièce soit jouée par des personnages féminins. Or, nous étions dans un lycée de garçons, donc on n'a pas eu d'autre choix que de se travestir, ce qu'on a fait. Et heureusement, on avait une copine assez célèbre, puisque tu voulais me poser une question à propos du phare, qui est une des fondatrices du phare. Or, on peut la citer, Hélène Azéra, que les gens connaissent peut-être, qui était donc à cette époque-là, qui a joué le rôle de madame. Et du coup, on a respecté le vœu de Jean Genet sans le savoir. C'est donc des garçons travestis en femmes qui ont fait cette pièce. Voilà comment je l'ai découvert. Ça, c'est pour la découverte théâtrale. Après, c'est un long chemin.
Quand on écrit un livre sur un auteur, il y a toujours une question qui revient forcément. Et je pense qu'elle brûle les lèvres des auditeurs et des auditrices de la web radio. C'est pourquoi ? Pourquoi écrire en 2016 un livre sur... 2016 dans les années 2010, pourquoi écrire un livre sur Jean Genet ?
Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que Jean Genet est beaucoup moins lu qu'il n'a été, et je ne me l'explique pas. Et encore, c'est tout à fait normal dans le cours de l'histoire, c'est pas le seul. Je me battrais pour que d'autres personnes qui sont moins lues le soient un petit peu plus. Mais en fait, quand j'ai décidé d'écrire ce livre et de le proposer à mon éditeur, c'est venu d'un constat que les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas du tout Jean Genet. Ce qui peut paraître assez paradoxal, puisque aujourd'hui il fait partie du répertoire de la Comédie française. Ça, c'est pas grand-chose. Mais surtout, c'est un des plus grands romanciers, je pense, d'après-guerre, qui a traversé des situations diverses, qui est un personnage très intéressant. On est désolé, on est dans un bar, il y a un petit peu de musique, qui a traversé la vie d'une façon très surprenante. Donc déjà, c'est attachant. Il a quand même commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a mal commencé sa vie. Hein. Il se croyait issu d'une famille où tout se passait bien dans le Morvan, etc. Alors qu'il a découvert à l'âge de 7 ans que c'était pas sa famille, que c'était un petit orphelin de la ville de Paris, placé dans le Morvan. Les conditions étaient très difficiles dans les années 1910 pour ces enfants-là. Et tout à coup, il s'aperçoit que ce ne sont pas ses parents. Bon, une vie tout à fait chaotique et qui vont générer chez lui, c'est pour ça que je me suis attaché à ce personnage, un parcours tout à fait atypique, et plus qu'atypique, puisque... tout à coup, on en parlait tout à l'heure, tout à coup, il se révolte contre le fait qu'il ne fait pas partie de la société. Et toute sa vie, il va garder cette espèce de réflexe de se méfier de l'organe social étatique, sans tout à fait trouver les mots et trouver le langage, la façon de l'exprimer. Donc il va le faire par les romans, il va le faire par le théâtre, ensuite il va le faire par le cinéma, parce qu'il a fait ses essais aussi au cinéma, par la poésie, avant de le faire par son engagement politique. Et c'est ça qui a été oublié et qui me fait un petit peu mal, c'est que c'est quand même quelqu'un qui, dans les années 70, a rejoint les Black Panthers, fait partie du groupe Information Prison, pour défendre le droit des prisonniers dans les prisons qui commençaient à se révolter à cette époque-là, dans les années 70. Et puis ensuite, qui a terminé avec la cause palestinienne dans les années 80. Ah, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué d'en parler, mais voilà. Donc, il était très investi dans les années 80. Et surtout, il a été le témoin du massacre de Sabra et Shatila, qui a encore redonné de la force à son engagement jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort très jeune, à 63 ans, il s'est laissé mourir. Et voilà, c'est tout ce parcours qui m'a intéressé. Et surtout le fait que, voilà, pour répondre plus précisément à ma question, que les jeunes ne le connaissent plus, et surtout ne connaissent plus tous ses aspects, que ce soit l'aspect de Sauvageon, on dirait aujourd'hui, que j'adore, de révolter contre tout ce qui est social. Donc il y a vraiment pour moi un côté, non pas anarchiste, mais d'aspiration libertaire. Il déteste ce que nous, les libertaires, nous détestons, c'est-à-dire l'autorité. Et pas que l'autorité, parce qu'il a... Il a... faut vite que tu me coupes, parce que là, je vais dire, je vais aller trop loin, mais... Non, quand je dis je vais aller trop loin, non pas au niveau de... Mais c'est tellement un personnage complexe. Alors, il y a tout ce côté positif. Voilà, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est de faire redécouvrir, et surtout redécouvrir aux jeunes ce que cette personne a traversé. C'est banal, et c'est tout sauf banal. Alors après, il y a aussi le côté de l'ombre, que j'ai moins aimé, mais que j'avais envie aussi de défendre. On m'a posé la question ce soir au Centre culturel libertaire de savoir si j'étais amoureux de Genet. Non, je ne suis pas amoureux de Genet. Mais j'ai envie de le défendre sur le côté lumière, sur tout ce qu'il nous a apporté. Mais surtout que les jeunes s'arrêtent sur la qualité d'écriture. C'est quand même un monsieur qui n'a eu que le certificat d'études. C'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui écrit avec ses tripes. Et c'est d'une beauté fabuleuse, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais après on lui pardonne son côté d'ombre.
Eh bien, cette première partie d'interview de l'auteur Patrick Schindler est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour écouter la deuxième partie. Donc je rappelle donc la deuxième partie de l'interview de l'auteur Patrick Schindler, qui a écrit un livre sur Jean Genet, Jean Genet, trace d'ombre et de lumière, édité aux éditions Libertaire, et il était venu à Lille le 15 décembre dernier au CCL, le Centre culturel Libertaire, pour le présenter, et à cette occasion nous avons réalisé une interview dans un café, Le Bel Ouvrage. Alors, concernant les musiques, nous avons écouté des musiques du groupe Neat Beats. Alors on a écouté Au Printemps et on va se quitter avec 8 ans après. Ces deux pistes sont sur l'album Alternate Soundtrack to Un Chien Andalou. Et enfin, l'introduction et les transitions sont tirées du morceau Agonie, toujours de Neat Beats, sur le même album. Alors je vous rappelle que Microbel Hebdo est une émission hebdomadaire sur Radio PFM 99.9, la radio associative d'Arras. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le site microrebelle.fr où vous pouvez écouter en streaming ou télécharger les podcasts de toutes nos émissions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'interview de Patrick Schindler. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Eh bien, ce micro-rebelle hebdo se termine. Retrouvez-nous sur notre site microrebelle.fr et chaque semaine sur Radio PFM 99.9. À la semaine prochaine.